vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, vous êtes bien avec Patrice Perrin, vous êtes bien sur Radio B 90 FM, la radio des bonnes ondes, avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire, celle du mois de juin. Et selon le thème qui émerge de mon esprit, voilà le thème, c'est « Pour la sagesse ou la beauté qui va sauver le monde et contre l'oubli ». L'oubli, c'est la guerre, car malheureusement, il y a beaucoup de guerres. Donc j'étais, sur ce thème-là, attiré par de grands livres, comme « La sagesse des éléphants » de Françoise Malby-Anthony, « La vie toujours ailleurs » de Myriam Antaki, « L'aube du mal » de Stéphane Leneuf et « Le burn-out » de l'anglaise Sophie Kinsella. Et puis il y aura d'autres livres encore que vous découvrirez. Mais avant, je me dois de vous signaler deux livres significatifs. Le couteau de Salman Rushdie, qui est paru aux éditions Gallimard. Un récit émouvant qui raconte tout son parcours depuis l'attaque au couteau dont il a été victime le 12 août 2022 aux États-Unis, dans l'amphithéâtre de Shotoka, où il devait donner une conférence sur la protection des écrivains. Plus de 30 ans après la fatwa prononcée contre lui. Blessé à plusieurs reprises par ce jeune homme, alors que lui avait 70 ans, il dut lutter pour vivre, pour lui et son épouse Elisa Rachel, la femme de sa vie. Il était, écrit-il, essentiel de dire une manière d'accueillir ce qui est arrivé et de répondre à la violence par l'art et la mémoire de tous les, avec tous ces intervenants qui ont intervenu dans son histoire à partir de ce moment-là, avant et après. De lever le voile sur la longue et douloureuse traversée pour se reconstruire après un acte d'une telle violence. Jusqu'au miracle, oui, il y a eu un miracle, une seconde chance que vous découvrirez en lisant « Le couteau » de Salman Rushdie. « Le couteau » se lit aussi comme une réflexion puissante, intime et finalement porteuse d'espoir sur la vie, l'amour et le pouvoir de la littérature. Une ode à la création artistique comme espace de liberté absolue. Voilà. L'autre livre, c'est « L'échappée ». L'échappée, on vous en a parlé, de Jean-François Dupont, édité aux éditions Asphalt. Je connais Jean-François Dupont depuis longtemps. Nous avons été réunis par un goût partagé sur et par les romans de Patrick Modiano. Il avait consacré au Château des Alimes toute une exposition sur l'univers de Modiano. Et j'y avais été, et je l'ai soutenu, lui, Jean-François, dans sa production, dans la production de ses premiers romans. Mais c'est vrai que depuis ce temps-là, je me suis dirigé, grâce à des éditeurs, vers d'autres œuvres. Dans ce roman, dans ce dernier roman, « L'échappée », François, le narrateur, est un universitaire à la retraite. Elle est contrainte de prendre à pied la direction de la Suisse parce que Dans ce livre, il y a une guerre civile qui menace son pays. Et au début, il est enfermé en prison pour un meurtre malheureux que vous découvrirez. Et il s'évade de cette prison grâce à la complicité du directeur de la prison qui a besoin de lui. Vous découvrirez pourquoi et comment il a besoin de lui. Donc, il va sortir de la prison. Mais il a eu, il revient dessus, connu une période vraiment très, très heureuse avec Faustine, la femme de sa vie, deux enfants, beaucoup de voyages, oui, de très nombreux. Il aime les voyages. Il a sa fille qui va naître à Buenos Aires et son garçon à Singapour, pour vous dire que, voilà, les voyages, il en a fait. Malheureusement, Faustine, son épouse adorée, fera un AVC foudroyant. Et ce sera la fin d'un grand bonheur. Il reviendra alors vers la maison paternelle et le jardin qu'il cultive. Ses enfants, ses deux enfants et ses petits-enfants, parce que ses enfants vont se marier, avoir des petits-enfants, sont au loin, mais quand même bien présents par le téléphone, par voilà. Mais ils ne sont pas avec lui. Dans sa fuite vers la Suisse, il rencontre une très jeune violoncelliste, Constance, à la dérive, elle aussi, comme lui. À la dérive tous les deux, et leurs solitudes vont s'unir pour le périple qui les attend. Mais à peine sur la route, le tandem se fait enlever par un étrange groupe d'adolescents, armés et imprévisibles, à l'image de leur chef. Et entre marche forcée, promiscuité, danger permanent, François et Constance, naissance d'une amitié, parce que bon, il y a une grande différence d'âge entre eux, ils vont tenter de se sauver eux-mêmes et ils y parviendront d'une certaine manière que vous pourrez découvrir en lisant donc ce roman de Jean-François Dupont, L'Échappée. Voilà, j'ai fini. Cette parenthèse pour revenir à mes choix sur la sagesse et contre l'oubli, avec un premier roman, La vie toujours ailleurs, de Myriam Antaki, La sagesse des éléphants de Françoise Malby-Anthony, un grand, grand moment pour moi, L'aube du mal, aussi une confrontation terrible, Stéphane Leneuf, Les derniers rhinocéros de Laurence Anthony, qui est mon grand, grand personnage de cette émission et de ce moment. Puis il y aura une pause musicale, et puis après on reprendra poésie, et puis encore d'autres livres, vous verrez. Un programme fabuleux. Alors, La vie toujours ailleurs. Un roman de Myriam Antaki aux éditions Intervalle. Ce livre est un roman en partie historique qui retrace l'itinéraire d'une chrétienne de Syrie, libre et indépendante, et qui résiste à la guerre, mais finit par quitter sa ville, la ville d'Alep, où elle est née, où elle a vécu longtemps avec ses parents, pour se réfugier à Damas, puis à Beyrouth, juste avant, au Liban, juste avant l'explosion d'août 2020. Donc c'est récent quand même. Un parcours, le sien, celui de Myriam Antaki, où se mêle l'amour d'un pays dévasté et une folle passion pour un homme insaisissable. On découvre qui il était, mais c'est la laborieuse, vous verrez. Son héroïne s'appelle Leila. quand la révolution islamiste ravage Alep en 2011, donc vous savez, c'est la guerre en Syrie, en 2011, elle voit sa terre natale partir en fumée. Tandis qu'elle cherche à s'évader dans les bras de Salam, son premier amour, la guerre redouble d'intensité lorsque la Turquie ouvre ses frontières aux intégristes et que des groupes armés fanatisés assiègent de plus en plus de villes de Syrie. Quand sa mère, à laquelle elle était très attachée, perd son combat contre la maladie, et que l'eau, l'électricité et la nourriture viennent à manquer, plus rien ne retient la jeune fille qui fuit en direction de la capitale pour y trouver, retrouver Salam, mais aussi les traces de Saint-Paul. Vous savez que Saint-Paul a été sur le chemin de Damas, perturbé par le Christ. Voilà. Donc à Damas, c'est aussi la guerre. Salam disparaît mystérieusement, mais elle rencontre deux amis extraordinaires, Amal et Aya. Deux amis qui lui deviennent vraiment très chers et qui vont la sortir de sa solitude. Elle est là, par elle, découvrira que survivre signifie encore vivre. Un beau programme. Leila retrouve le goût d'étudier et d'enseigner à des jeunes enfants, nourrie de souvenirs heureux dans cette Syrie qu'elle aimait tant, une terre qui se trouve au confluent des civilisations, des dialogues, des cultures, des religions que l'on redécouvre grâce à Myriam Antaki et son personnage Leila, qui découvre des choses et qui nous fait partager ses découvertes. Mais malheureusement, cette Syrie risque de disparaître à jamais avec cette guerre omniprésente. Heureusement, il semble que les loyalistes vont l'emporter. Puisant sa force dans une profonde soif de liberté, elle se réfugie à Beyrouth, donc au Liban, pour étudier à l'université américaine et devenir une romancière significative de cette histoire du monde. C'est une diffusion Gilles Paris que je remercie beaucoup pour avoir reçu ce livre majeur, « La vie toujours ailleurs » de Myriam Antaki, aux éditions Intervalle. Et je passe au deuxième livre, au deuxième roman, mais qui est comme un récit, « La sagesse des éléphants » de Françoise Malby-Anthony, paru aux éditions Albin Michel. C'est, je crois, celui-là qui est mon coup de cœur, car j'ai beaucoup appris avec ce récit. Et si les éléphants avaient tout à nous apprendre, c'est la grande question que l'on peut se poser en lisant ce document exceptionnel. Lorsqu'en 1999, Françoise Malby-Anthony, une Française de Paris, et son mari Laurence Anthony créent la réserve de Tula-Tula en Afrique du Sud, la jeune femme ignore encore que cela va changer sa vie à jamais. Le couple inaugure les lieux en accueillant 7 éléphants au départ, les premiers de ce qui formera une grande famille Et on peut insister sur ce qualificatif de grande famille d'animaux sauvages, car il en aura beaucoup. Profondément touché par l'intelligence et la sensibilité des éléphants, Françoise établit très vite avec eux un langage et un lien unique. Elle dira même que les éléphants ont réussi à me toucher au plus profond de mon âme. C'est quelque chose. Désormais, veiller à leur sécurité et à leur bonheur devient l'œuvre de sa vie. Elle va y parvenir. Un rêve. Voilà. Mais de terribles défis l'attendent. Tout d'abord, la mort de son mari aimé, une sorte de crise cardiaque en 2012. C'est vrai que c'est un homme sud-africain qui s'est beaucoup dépensé. De violentes sécheresses, plusieurs années de sécheresse, les agressions des braconniers, alors ça c'est terrible, qui en veulent aux cornes des éléphants, mais aussi d'autres animaux dont je vous en parlerai, les braconniers. Puis le Covid. Vous savez, avec le virus, ça nous a touché aussi, qui venait d'Afrique du Sud, qui a empêché les visiteurs de venir, parce que les visiteurs sont très importants. C'est eux qui font vivre la réserve de Tula Tula, en visitant cette réserve et en payant, bien sûr. Donc, même s'il n'y a plus cette rentrée d'argent, il faut continuer. Elle doit continuer à régler les 50 personnes qui travaillent à Tula Tula. La menace de l'État aussi, d'abattre ses troupeaux si elle n'agrandit pas la réserve, car ils sont soucieux de savoir s'il y a suffisamment d'espace pour tous ces animaux qui puissent grandir en paix. Sur ce chemin semé d'obstacles, l'amour qu'elle donne aux animaux et qu'elle reçoit d'eux se révèle être une source inattendue d'énergie et de combativité. Ce sont eux, les éléphants, au nombre de 28, qui la guident à travers les épreuves. Leur intuition, leur résilience, leur sens de la famille et de la communauté, avec les deux matriarches qui dirigent tout le troupeau, la pousse à aller de l'avant et à poursuivre son rêve. C'est un récit profondément émouvant, une leçon de vie qui nous plonge dans une réserve agrandie, voilà, elle a été agrandie, où s'entendent les bébés hippopotames, rhinocéros, à découvrir vraiment. On a tendance à les ignorer, les rhinocéros. Les crocodiles, ça en connaît, mais quelques crocodiles, mais surtout beaucoup de rhinocéros, des girafes, des guépards, buffles et combien d'autres animaux cités au fil des pages. Ce récit est une passion partagée pleinement avec les lecteurs de ce récit inoubliable. Voilà ce que je voulais vous dire sur la sagesse des éléphants. Et je sais que j'en parle souvent autour de moi, aux personnes que je rencontre, car c'est mon coup de cœur, La sagesse des éléphants, de Françoise Malby-Anthony, paru chez Albin Michel. Alors, L'aube du mal, le troisième roman, qui est paru de Stéphane Leneuf, paru chez Michel Lafon, est une confrontation terrible. Ce roman est une fiction tout à fait crédible, car en 1918, des Alsaciens allemands n'ont pas accepté la victoire des Français. Ainsi, ce couple d'Alsaciens, elle française, Marie, qui s'appelle Marie, son mari Bernard est un cuisinier, est Alsacien allemand, et il n'accepte pas que cette terre d'Alsace revienne à la France. C'est vrai qu'il a eu des amis qui sont morts dans les tranchées, mais lui, il était dans la cuisine, donc il est un peu à l'arrière, donc il n'a peut-être pas vécu l'enfer que ça a été pour certains. Mais voilà, pour lui, l'Alsace devait rester à l'Allemagne. Donc lorsque lui est chassé outre-Rhin, parce que lorsque les Français reviennent au pouvoir après la guerre, il emmène son fils Claus, parce que cette famille a eu deux enfants, des jumeaux, Nicolas et Claus, et la séparation des Français fait Claus partira avec Bernard en Allemagne, il ira jusqu'à Munich, et que Nicolas restera avec Marie, qui aura une nouvelle carte d'identité. Mais après cette séparation douloureuse, qu'il pense temporaire, elle décide de trouver refuge en Bourgogne, à Bligny, pas très loin de Dijon, où Jeanne, l'épicière, fait une demande et elle l'embauche. Alors bien sûr, une femme qui prétend être veuve avec un enfant, ça fait mal effet. Mais il y a le frère de Jeanne, Félix, qui tombe amoureux de Marie et qui va l'épouser. Alors, ça va arranger les choses. Elle deviendra Marie Vogel. Et tout le monde, de côté, la connaît sous le nom de Marie Vogel, ne connaît pas son passé à Strasbourg, son passé au début à Strasbourg. Elle devient une chef respectée d'un réseau de résistance, parce que la guerre, elle avance, elle menace. Elle gagne sur la France, elle envahit Paris, puis elle gagne sur la France, avec non loin de là la ligne de démarcation, et ils parviendront à faire passer bon nombre de fugitifs. Elle reçoit bien des lettres de son ex-mari, qui a rejoint Hitler, le Führer, et tous les officiers qui travaillent avec le Führer pour réussir à retrouver la terre d'Alsace ou la terre de s'imposer, et qui fait aussi que son fils Claus rejoint les jeunesses hitlériennes et deviendra ASS. Donc, le chaos engendré par ces hommes nationalistes de l'extrême gagne toute la France. Marie n'a jamais abandonné l'espoir de retrouver son autre enfant, Claus, car c'est vraiment une mère. Devenue héroïne de la résistance, elle ignore que la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, elle devra, et nous aussi, nous le découvrons, elle devra affronter une terrible réalité que vous découvrirez, hélas, mais c'est choquant. Voilà. Embarquée dans une lutte à mort contre l'ennemi, elle n'imagine pas combien seront dramatiques les retrouvailles avec Claus. Sur fond d'occupation et de résistance, l'aube du mal nous conte le destin bouleversant d'une femme qui doit se battre contre le chaos engendré par les hommes assoiffé de sang pour essayer de retrouver son bonheur perdu. Ne pas oublier les horreurs du passé pour ne pas se condamner à revivre, à les revivre, voilà. Ne pas oublier les horreurs du passé pour ne pas se condamner à les revivre, même aujourd'hui. Une confrontation intense et inoubliable sur ceux qui donnent la vie comme Marie, les femmes qui donnent la vie, et ceux qui, sans état d'âme, avec une grande cruauté, donnent la mort. C'est le cas de Bernhard, des officiers SS. Ce roman, L'aube du mal de Sylvain Leneuf, paru chez Michel Lafon, et aussi pour moi une diffusion Gilles Paris, que je remercie pour ce grand roman. Je vous entraîne au cœur de l'Afrique avec un quatrième roman, livre, celui de Laurence Anthony. Je vous en ai parlé de ce Laurence Anthony. Prêt à tout pour sauver une espèce, les rhinocéros, que j'ai découvert grâce à lui. Il y a des rhinos blancs qui vivent au nord de ce qu'on appelait avant le Congo. Puis il y en a des noirs qui vivent au sud. Voilà. Et ces derniers rhinocéros, on livre les derniers rhinocéros, vient de reparaître chez Albin Michel dans une superbe collection, la collection Grand Espace Libre. Je remercie les éditions Albin Michel qui m'ont gracieusement fait parvenir deux rééditions, celle-ci puis une autre. Dans la réserve de Tula Tula, en Afrique du Sud, la vie de Laurence Anthony, le propriétaire des lieux, je vous ai parlé avec Françoise Malvy Anthony de Tula Tula, eh bien, dans cette même réserve en Afrique du Sud, la vie de Laurence Anthony, le propriétaire des lieux, n'est jamais morne. Ils lui font composer avec le troupeau d'éléphants au comportement imprévisible, parce que ce sont des animaux sauvages, même si ils ont une reconnaissance pour les humains. Et puis il y a aussi les colonnes de fourmis légionnaires qui dévorent tout sur leur passage. Sans oublier Heidi, le rhinocéros préféré des invités et du personnel, est menacé par les braconniers. Il faut donc l'endormir et puis lui retirer ses cornes, parce que c'est la convoitise des braconniers de vouloir s'emparer des cornes et les vendre après en Asie, parce que ça vaut très cher. C'est de l'or en barre presque, de ces cornes des rhinocéros pour les braconniers, des éléphants aussi. Mais on ignore aussi que pour les rhinocéros, c'est un appétit des braconniers. Mais une inquiétante nouvelle le pousse à quitter la réserve de Tula Tula, qui, au bon soin de son épouse Françoise et les siens, est parvenir à quelques milliers de kilomètres de là, où les rhinocéros blancs du nord qui court un grave danger d'extinction. Il s'embarque alors dans une aventure extraordinaire qui le mène de Kinshasa jusqu'aux confins de la République démocratique du Congo. En proie aux conflits armés, alors que les efforts diplomatiques pour restaurer la paix dans cette région du monde échouent, Laurence Anthony se rend dans les zones de combat, là où vivent les rhinocéros, et traite directement avec les rebelles. Donc on découvre la vie de ces rebelles. On découvre aussi dans cette aventure que le rhinocéros blanc du Nord, est un géant fabuleux, de 3 tonnes, et qu'il était chez lui depuis des millions d'années, sur une vaste étendue de terre au cœur de l'Afrique. Et aussi que l'âme africaine n'est pas facile à comprendre pour nous les Occidentaux. La justice traditionnelle, le pardon, fonctionne en lien avec elle, avec cette âme africaine. Tout est vrai dans ce fabuleux récit qui transporte le lecteur dans un monde où des hommes et des femmes sont prêts à risquer leur vie pour sauver des animaux en danger. Donc on va faire une pause musicale, Jean-Sébastien Bach, concerto pour deux violons. Thank you. Voilà, une très belle musique. Justement, c'est la sagesse ou la beauté qui sauvera le monde. Et une belle musique comme ça sauve le monde, nous guérit de la guerre, de l'oubli, de la guerre et de la violence. Et puisque j'ai dit que la sagesse ou la beauté sauveront le monde, j'ai encore là un livre, un recueil de poésie, un livre unique de toute beauté. Ça s'appelle « Sur la crête ». C'est de Camille Brèche et ça vient de paraître aux éditions des Deux Rues, voilà, que vous connaissez bien, qui sont l'éditeur de Bourg-en-Bresse. Dans l'édition, c'est le prix de poésie Histoire et Mémoire 2023. C'est un livre, il faut immédiatement le commander, vous serez subjugué par ce recueil, 10 euros pour le commander. Il faut vous adresser à https://www.editions2rues.com. Voilà. Parce qu'elle parle sur la crête d'un endroit stratégique. Il s'est passé des choses. En 2018, cette année où je me suis retranché du monde, nous dit Camille Brèche, l'auteur de ce recueil de poésie, sur la crête, je me suis promené souvent. J'ai contemplé la montagne et les traces traumatiques de son histoire, la bataille effroyable de Linge en 1915. C'est comme un monstre endormi. C'est vrai que depuis cette époque, un autre été, 1915, un été comme les autres, le même soleil, les mêmes arbres, les mêmes fleurs dans l'ombre et les lapins cachés, les éclats de fourrure d'une martre traversant la clairière d'un cerf à l'orée du bosquet, et les cigognes en chasse, dans ce coin innocent de montagne, le massif, pas si massif, du Linge, où s'est déroulée une terrible bataille, mais depuis ce temps, eh ben, la nature a repris le dessus, masquant les traces traumatiques de son histoire. Alors je vous lis quelques premières pages de ce recueil de poésie unique. Je vous dis qu'il faut vraiment le commander aux éditions des Deux Rues. Chaque mot est pesé. C'est un coin de montagne. Un bout du nez d'une montagne, comme d'un monstre endormi. Un étrange animal plongé dans un rêve, trop grand pour qu'on le remarque. Il faudrait pour cela qu'il s'éveille et se mette à marcher. Pour le moment, le monstre dort. Et l'air qu'il expire est dense, qui couvre l'herbe frémissante, chauffe les pierres, secoue doucement les cimes des arbres. Dans les ramures, le vent porte sa collecte de tintements de cloches, d'aboiements de chiens dans le lointain. Fait marmotter les feuilles, chuchoter les aiguilles, révèle le bruissement d'une eau prudente qui sinue entre les pierres et nourrit l'humus au bonheur des fleurs. Violette lamier, aiguillette odorant, bourgeonne, fane ici, dans une indifférence heureuse. Au-dessus des fleurs, l'or des hêtres succède au vert des chênes et des charmes qui rougeoient à l'automne. Rien sous ce manteau diaprée n'explique que de loin la montagne paraisse bleue. C'est pourtant toute bleue que l'aperçoivent depuis le fond de la vallée de Münster les passagers d'un flot continu de voitures venues de Colmar qui se répartissent dans les villages Muelel, Münster, Münster, Stosvir, Soutseren, nervures de plus en plus fines. Et dans ce lieu, au-dessus de Rodberg, passe une voiture à l'horizon. D'ici, on oublie qu'il y a en bas, juste là, une vie citadine, ce flot de voitures qui vont et viennent, des commerces, des restaurants, un café toujours plein. Souvent, la vallée et ses villages sont masqués, noyés, dans une mer de nuages bas. On n'entend pas la rumeur des routes, ni les perceuses du chantier, ni les cloches des églises nombreuses, ni la chorale de Soultzeren par les fenêtres ouvertes de la salle municipale. Ici, il n'y a rien qu'une route impeccable à flanc de montagne qui se perd parmi les bosquets de sapins hirsutes et froids. Les animaux des sous-bois peuplent le mutisme sémillant des hauteurs, loin de la frénésie humaine et ses infrastructures, on trouverait seulement un peu plus loin, sur le bord de la route, un panneau indiquant le linge. Altitude 976 mètres, puis un autre panneau, zone de recueillement. Cette route est fermée en hiver. Je vous laisse découvrir la suite de ce livre unique sur la crête de Camille Brèche, recueil de poésie aux éditions des Deux Rues. Pour le commander, je vous ai dit https://www.editions2rues.com. Voilà. Pour ce. Alors, je passe maintenant à un livre plus léger, mais avec un fond quand même de profondeur, parce que c'est vrai que ça peut nous arriver quand on est trop pressé, trop stressé par le travail. Ça s'appelle le burn-out, voilà, de Sophie Kinsella, et qui vient de paraître chez Bellefond, que je remercie pour ce signe qu'ils m'ont fait. Sophie Kinsella est une romancière anglaise, je peux vous dire, très appréciée par la jeunesse et pour la jeunesse de son esprit. Elle imagine son héroïne, Sasha Worth, qui, au travail, reçoit trop de mails, trop de pression de la part d'une chef ou de chefs, il y en a plusieurs, trop de charge mentale. Elle est en plein craquage. Et elle doit s'arrêter et prendre 3 semaines de vacances. Sa mère qui est sa confidente, lui suggère d'aller dans le Devon depuis Londres, parce qu'elle habite et elle travaille sur Londres, depuis Londres, dans le Devon, par le train et d'aller à Hilston Bay, que l'on découvre. C'est une station balnéaire où elle a passé toutes ses vacances d'enfance pour un séjour qui mêlera détente, plaisir et lâcher prise. Et même peut-être du surf, car dans sa jeunesse, elle avait appris à faire du surf. Malheureusement, depuis le décès de son père, eh bien, ce temps des vacances est terminé. Donc elle n'y pensait plus à cette station balnéaire. Alors, ouf, elle prend le train et elle arrive à Hilston Bay. Et lorsque, premières impressions, lorsqu'elle arrive, rien n'a changé. L'hôtel où elle allait petite est toujours là. L'épicerie locale vend toujours les biscuits au chocolat, typiques de la région, et les cabanes de plage sont là aussi. Mais en fait, il y a des changements. Et ce qui a changé, c'est que l'hôtel tombe en ruine. Il sera même par la suite, heureusement, repris par quelqu'un d'autre, un nouveau propriétaire, mais en attendant, ben, il est bien là, il tombe en ruine et il accueille encore quelques clients, dissimulés par un personnel restreint, mais dévoué. Oui, on peut dire que ce personnel est attachant. Le prof de surf, qui était un être génial, perd la mémoire. Et les biscuits sont fort peu appétissants. Heureusement, il reste la plage et la mer, où Sasa devrait être tranquille hors saison. Elle avait trouvé une place sur un rocher pour méditer et se détendre. Mais celui-ci est pris par un homme impossible, un solitaire, Monsieur Finn Birchall, qui en fait se retrouve là pour la même raison, car il a eu des gestes de colère, il a même cassé des choses, donc il faisait lui aussi un burn-out. Donc il fallait qu'il s'arrête et qu'il parte. Et à la lecture de ce roman, une très belle couverture qui vient de paraître chez Bellefond, donc de Sophie Kinsella, eh bien, à la lecture de ce roman, on découvre qu'il était venu aussi dans la jeunesse par là, dans cette station. Et ils sont là pour communier ensemble avec le monde de la nature. Vous savez ce que c'est quand on est deux personnes à vivre dans une station, mer et sable et mer, et puis les animaux, le monde de la nature, les animaux et les plantes leur apportent leur soutien. Les mouettes en particulier, qui vont chasser Finn Birchall, et ce qui va permettre à notre héroïne, Sasa Worth, de retrouver son siège presque naturel pour méditer, se souvenir de beaucoup de choses. Alors c'est vrai que ces deux êtres en miettes, ils vont pouvoir refaire du surf parce qu'il y aura un nouveau professeur, disciple de l'ancien, qu'on retrouve d'ailleurs quand même s'il a perdu la tête. Ces deux êtres en miettes sauront-ils trouver un apaisement? Si le surf était le plus court chemin vers la sagesse. Voyez, on reparle encore dans ce livre de sagesse. Et ce séjour sera totalement bénéfique. Vous pourrez le lire, le comprendre en lisant ce livre. Les choses vont s'arranger aussi pour l'un comme pour l'autre. Et après, la vie reprendra encore mieux qu'avant. Voilà. pour le burn-out de Sophie Kinsella qui vient de paraître chez Bellefond. Et puis, je vous parle d'un septième livre, oui, L'Arche de Babylone de Laurence Anthony, qui vient de paraître aussi aux éditions Albin Michel dans la collection Grands Espaces Libres. Une réédition attendue du livre de celui qui avait peut-être un cœur d'éléphant. Une expression qui vient de Didier Van Kovelaerts, qui a fait une préface à ce livre « L'Arche de Babylone », « L'incroyable sauvetage du zoo de Bagdad ». Parce que Didier Van Kovelaerts parle de l'hommage qui a été rendu à la mort de Laurence Anthony à l'hôpital de Johannesburg en 2012. Je vous l'avais dit qu'il avait fait un arrêt cardiaque pour finir. Parce qu'il avait trop tellement de choses, cet homme. Mais qu'il y a eu aussi, en plus des hommes ou des personnalités qui sont venues lui rendre hommage, il y a eu à 600 km de l'hôpital de Johannesburg, dans la réserve de Tula Tula, une procession d'éléphants sont venus vers son domicile pour lui rendre hommage. Voilà. Donc, vous voyez que les éléphants sont vraiment des personnes à part entière, presque. Alors, en 2003, l'Arche de Babylone, c'est en 2003, en pleine guerre d'Irak, le Sud-Africain Laurence Anthony, propriétaire d'une réserve et fervent défenseur de la cause animale, décide de se rendre à Bagdad. Son but ? Porter secours aux eaux de la ville. Ses pires craintes se vérifient une fois sur place. La violence des combats, c'est la guerre en Irak, et les pillages incontrôlés, ça c'est terrible, les pillages, parce que même quand ils trouvent une façon de pallier un manque d'eau ou de quelque chose, ils prennent des seaux qu'on trouve grâce à l'armée américaine. Eh bien, dans la nuit, on va leur piquer le seau, les seaux. Donc, il faut encore se défendre de ces pillages incontrôlés. On causait la mort donc d'un grand nombre d'animaux. Au mépris de sa propre vie, il décide de rester et parvient à unir soldats américains et civils irakiens autour d'un projet fou, celui de protéger les bêtes qui ont survécu et reconstruire le zoo. Ce n'est pas une mince affaire. 3 mois, ça va lui tenir 3 mois. Au fil de ce témoignage puissant, Laurence Anthony tentera aussi de sauver les lions, car il y avait des lions, du fils aîné de Saddam Hussein, qui a disparu, qui s'est enfoui, mais le fils, qui était soi-disant ministre, voilà, avait des lions et qu'il a abandonné. Et les pur-sangs arabes, de superbes pur-sangs arabes du dictateur déchu, cachés dans une écurie d'Abou Ghaib. Donc l'Arche de Babylone est la chronique terrible d'un zoo détruit par le chaos de la guerre et transformé en un parc paisible grâce aux efforts inouïs, on peut le dire, d'un homme qui a su rendre leur dignité aux animaux comme à ceux qui les soignent. Je vous lis un dernier passage de ce livre unique, L'Arche de Babylone de Laurence Anthony, qui est reparu chez Albin Michel. Le grand jour était enfin arrivé, le 19 juillet 2003. Le parc Al-Zawraa, un très beau parc, Al-Zawraa, et le zoo de Bagdad, tout à côté, rénové, était officiellement rouvert par Ted Morse, un Américain responsable. À ses côtés, il y avait un général de l'armée américaine, le docteur Al-Assam, et un cortège d'officiers supérieurs américains et irakiens entourés de soldats et de gardes du corps, parce qu'il faut encore se prémunir. La ville meurtrie venait de franchir une nouvelle étape, et non des moindres. C'est ce pourquoi nous nous étions battus. Il se retire chez lui à Tula Tula, dans sa réserve sud-africaine. Le devoir accompli. Et les éléphants, eh bien oui, les éléphants vinrent lui rendre visite à la maison, comme ils le font toujours quand je rentre de voyage. Et il veut créer une éthique, un code moral ferme et définitif pour continuer à sauver d'autres animaux, qui deviendra donc cette éthique un critère de base pour tout ce qui touche à l'environnement. Car revenu chez lui, eh bien, il avait encore le souci de fonder quelque chose qui tienne la route et qui sauve l'environnement et la défense des animaux sauvages. Cette éthique ou cette association s'intitule The Ars Organization. The Ars Organization avec le soutien de l'ONU. Voilà. Et donc je m'arrête avec l'Arche de Babylone de Laurence Anthony, paru aux éditions Albin Michel. Voilà de quoi lire pour vos vacances qui sont prochaines. Et je vous dis donc à très bientôt en septembre, si Dieu nous porte vie.